L'amphi, l'émission étudiante.
Alors, la plupart du temps, on est là à se balader dans les rues, à se trimballer.
Bonjour et bienvenue dans l'Amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com. Aujourd'hui, on reçoit de nouveau Lucas Morisseau, jeune réalisateur qui travaille sur son premier court-métrage, La Chaleur des Iris, qui va pouvoir nous donner des nouvelles de son projet. Bonjour Lucas. Alors, pourquoi t'es pas allumé? Ah bah oui, c'est pour ça, oui, voilà.
Bonjour.
Voilà, c'est mieux comme ça. Ensuite, on passera directement aux chroniques étudiantes avec Maëlle, Merlin, Clémentine et Julie. Beaucoup de chroniques aujourd'hui, donc là, il y a Merlin qui est au micro actuellement.
Salut.
Salut Merlin. C'est parti tout de suite pour notre première invitée du jour.
Plus on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est quand on est de fou et plus on s'emmerde.
Lucas Morisseau, tu es réalisateur du film La Chaleur des Iris, ton premier court-métrage, dont tu étais déjà venu parler dans l'Amphi le 17 janvier. Le casting pour les actrices principales venait d'être fait, si je me souviens bien, mais aucune image n'avait encore été tournée. Tu vas donc nous dire comment le projet a évolué depuis. Mais avant, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel? De quoi parle La Chaleur des Iris?
Alors, La Chaleur des Iris, c'est un court-métrage qui devait à la base être entre 15-20 minutes, mais depuis le tournage, je pense qu'on sera aux alentours de 30-45 minutes.
D'accord.
C'est, donc plus dans la catégorie moyen-métrage.
Ah ok, d'accord.
C'est ça, et donc ça évoque plusieurs sujets, plusieurs thématiques, comme le regard, la musique, la pression familiale, mais également l'endométriose, et surtout l'endométriose. Et donc, on traverse l'histoire de deux jeunes femmes qui passent de l'adolescence à l'âge adulte. Et donc, Charlotte tente d'apprendre le saxophone pour se rapprocher de Samantha, avec qui elle entretient une relation à distance. Il faut savoir que Samantha, elle a trois pressions. Elle a la pression du conservatoire, vu que c'est une experte en saxophone. Elle a la pression de son père, mais aussi la pression médicale, puisqu'elle subit une errance médicale avec ses douleurs menstruelles.
Voilà. D'accord. Donc c'est un film avec deux personnages féminins forts qui à la base ne sont pas forcément faites pour se rencontrer, mais finalement...
Alors elles sont en relation à distance. Mm. C'est juste que avec chacune leur vie, elles ne se sont jamais... Enfin, elles se sont rencontrées une fois, mais elles n'étaient pas encore ensemble. Et donc elles vont être amenées à s'unir pour s'épanouir toutes les deux.
Et alors c'est un projet que tu portes depuis combien de temps?
Alors, ça fait 2 ans. J'ai commencé à travailler dessus au lycée, à la fin de mes années de lycée. J'avais déjà réalisé un court-métrage avec mes propres moyens pendant que je passais le bac. Et c'était assez compliqué, j'avais pas d'équipe, j'avais mon propre matériel. On avait quand même fait une projection au cinéma Les Cinéastes, qui était très sympathique dans le cadre des séances des ambassadeurs, les cartes blanches. Et donc là, je me suis dit, je vais écrire un projet encore plus fou. Et le voici, après 2 ans.
Et alors, quels sont les partenaires qui te permettent de financer ce film? Parce que ça demande des financements, un film.
Alors, au niveau des partenariats, on est toujours en recherche. On a déjà des partenaires que je vais citer là. Mais on essaie de se rapprocher surtout de partenaires qui tournent autour du médical, ou en tout cas de la prévention. Mmh. Donc, pour le moment, on a la chance d'être dans le dispositif de la couveuse organisée par la ville du Mans. Par ce biais, on a eu la chance aussi d'avoir le soutien de la Cité du Film, qui nous ont aidés, qui nous ont formés et qui nous ont prêté du matériel. Et donc, grâce à la ville du Mans, on a eu un financement de 800 euros à peu près.
D'accord.
Voilà, pour nous aider à faire nos projets. On est 6 projets, je crois. Et donc, dans les alentours à la rentrée, il y aura une projection de tous ces courts-métrages, enfin pas que des courts-métrages, mais tous ces projets audiovisuels que vous pourrez découvrir en salle.
Mmh. Et alors du coup, tu as toute une équipe avec toi, j'imagine, tu n'es pas tout seul sur ce projet.
C'est ça. Mmh. Alors, on doit être une vingtaine, voire plus. Donc 20 personnes bénévoles, parce que j'auto-produis le film. Il faut savoir en plus qu'au-delà du poste de réalisateur scénariste, j'ai été un peu amené à prendre le poste de directeur de production, vu que j'en ai pas trouvé. Donc Donc c'est un peu une première parce que j'ai jamais été trop dans la production. Et c'est quand même un poste qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, qui nécessite une grosse charge mentale. Et donc voilà, j'essaie de faire comme je peux pour alterner ces deux rôles.
Très formateur en tout cas.
C'est ça, très très formateur. J'avais fait une année en école de cinéma et pour le coup, cette année-là, à travailler sur mon film, c'est encore plus formateur que l'école.
Ouais, tu préfères vraiment la pratique, le terrain.
Exactement.
À une formation.
Je trouve que c'est génial parce qu'on apprend sur le tas, on est obligé de rebondir avec tous les problèmes qui arrivent et c'est, comme tu dis, très formateur.
Alors, depuis la dernière fois que tu es venu, est-ce que tu as eu l'occasion de tourner des images du film ?
Alors oui, bien sûr. Donc le tournage a commencé le 20 mars. On a tourné 4 jours à Nanterre. Puis en fait, on a enchaîné les week-ends avec des petites pauses entre chaque week-end pour nous reposer et aussi préparer des derniers détails de dernière minute. Et donc, on a tourné 4 jours du 20 au 24. On a tourné ensuite du 29 au 1er avril au Mans. Et ensuite, le week-end dernier, du coup, on a tourné de nouveau à Paris sur 2 jours. Et là, on tourne les 2 derniers jours ce week-end après 10 jours de tournage. On en aura 12 au total.
Donc, c'est des petites sessions intenses de quelques jours.
C'est
en fait,
ça.
À chaque fois.
Intense, okay. C'est le mot.
Ouais, intense, c'est le mot, j'imagine. Ouais. Alors, est-ce que tu as fait appel à des figurants pour ton tournage ?
Alors oui, on en aura quelques-uns justement ce week-end, mais c'était surtout le week-end dernier au Mans. Du coup, on a essayé de reproduire une séquence de concert. Donc on a formé un public avec des figurants. Donc on a posté des annonces, etc. pour qu'ils viennent sur le lieu où on tournait, qui est la Citadelle des Anges.
Ah, t'es loché.
C'est ça, à Téloché.
Je connais bien.
On a tourné dans le Dôme. C'est une salle de concert, spectacle, qui est ouverte depuis fin 2023, je crois.
Ah, c'est génial que vous ayez pu tourner là-dedans.
Oui, et puis j'avais fait un stage chez eux l'été dernier.
D'accord.
Donc c'était le retour un peu, pas à la maison, mais presque.
Donc tu connaissais un peu l'équipe, quoi.
C'est ça, Sylvain et Isabelle.
Alors,
très gentils.
Comment s'est passé le tournage ? Tu as dit que c'était assez dense.
Alors, le tournage, plein de péripéties, parce que un tournage, c'est problème sur problème qu'il faut résoudre parfois à la dernière minute, vraiment à la dernière minute, voire à la dernière seconde. Mais en globalité, ça s'est très très bien passé. J'avais très peur sur les derniers jours avant le début du tournage, qu'on soit mal organisé, que l'équipe ne s'entende pas bien. Et finalement, on a tous été très très professionnels, et en tout cas, les gens chez qui on a tourné, notamment Sylvain, Isabelle à la Citadelle des Anges ou encore ce week-end là, dans une maison en région parisienne, ils nous ont tous dit qu'on avait été vraiment très respectueux, très pro et qu'on avait une très bonne dynamique d'équipe. Donc c'est, le résultat est là. Je suis très content.
Chouette. Alors tu as déjà tourné 10 jours, il en reste 2 ce week-end, donc le 13 et 14 avril.
C'est ça.
Ça paraît très court pour tourner un film en fait, ça fait quoi ? Ça fait 10 jours, c'est ça ? Oui,
alors,
je l'ai dit au début, oui, en plus.
Est-ce que
ça a été suffisamment en termes de temps ?
Honnêtement, c'est énorme. Un court-métrage, il faut savoir que ça peut aller sur un jour de tournage jusqu'à 10 jours pour les gros. Après vraiment, on passe dans les moyens métrages. Voire parfois les longs, mais les longs, ça prend...
Donc 10 jours, en fait, c'est beaucoup pour un court-métrage.
Bah là, c'est pas 10 jours, c'est 12 jours.
Ah oui,
l'été dernier, j'ai été sur un tournage où c'était 10 jours. Eux, pareil, ils ont atteint 30-40 minutes, et encore, je sais pas encore la durée précise. Et donc, à la base, pour 15-20 minutes, c'était énorme ce nombre de jours de tournage, mais j'ai été très ambitieux, parce que c'est mon état d'esprit naturel. Et donc, je voulais beaucoup de décors, beaucoup de personnages et vraiment créer une espèce de déambulation des personnages dans leur quotidien.
Et alors, du coup, c'était ton premier tournage en tant que réalisateur ?
Premier gros tournage en tant que réalisateur. Sinon, j'avais participé en octobre dernier avec le collectif Sentinelle, qui est un collectif de cinéphiles queer. On avait participé du coup au concours 48 heures, je me souviens plus des lettres qu'il y a après, mais c'est un concours assez officiel qui est national, et donc dans chaque ville de France, en 48 heures on doit réaliser un court-métrage. J'avais eu la chance d'être réalisateur, même si c'était encore plus brouillon, parce que c'était en 48 heures, on n'a pas le temps de respecter tous nos postes, donc c'est moins précis, voilà.
Mais en tout cas, c'était ta première expérience sur un gros projet, on va dire.
C'est ça.
Et alors, comment est-ce que tu l'as vécu ?
Alors, je l'ai plutôt je vais pas dire bien vécu, parce que beaucoup de stress, beaucoup
Ouais,
de
j'imagine.
charges, mais en tout cas, c'est très, très formateur. Et c'est vraiment quelque chose que je vais retenir. J'ai appris à affronter le moindre problème, rien que dans mon quotidien. Maintenant, je sais que s'il y a un problème au-delà de l'audiovisuel ou quoi, je vais être plus apte à le résoudre et moins craintif sur pas mal de choses. Honnêtement, c'était plus un accomplissement. 2 ans à travailler sur ça et se dire quand est-ce que ça va vraiment enfin, ça va devenir réalité. Et là, le fait de voir les gens travailler sur mon projet, même si j'aime bien l'idée qu'on soit une équipe sur le tournage, c'est quand même très satisfaisant.
Et en parlant d'équipe, justement, est-ce que c'est difficile de gérer toute une équipe comme ça?
Oui, je vais pas mentir, c'est très très compliqué, surtout sur un projet bénévole. En fait, on pourrait se dire, un projet bénévole, ça va, c'est plus simple qu'un projet professionnel parce qu'il y a des enjeux d'argent, il y a aussi des enjeux d'argent ici, mais du coup, vu que les gens ne sont pas payés,
Oui.
c'est encore plus compliqué de les gérer, de les faire tenir, de les faire s'accrocher au projet. Et on a eu pas mal de personnes qui sont parties à la dernière minute, donc il a fallu les remplacer. Et ce que je comprends totalement, parce qu'on a tous nos petits projets à côté, et se mettre comme ça sur un projet assez conséquent, ça demande beaucoup d'efforts, d'énergie, de motivation.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, quand tu payes les gens, t'as le droit d'exiger d'eux
C'est
alors
ça,
que
c'est
t'étais moins
ça.
en position
Alors que là,
d'exigence,
on
quoi.
les attire un peu avec la cause que le
Ouais.
projet défend, mais aussi avec la bonne ambiance, avec de la nourriture aussi.
Est-ce que combien est-ce que vous étiez en fait sur ce tournage?
Alors au total, j'ai pas compté. Je verrai ça quand je ferai le générique. Mais je pense honnêtement, on était une vingtaine, voire plus.
Ok.
Donc une vingtaine de personnes qu'il faut coordonner. Après, c'est pas moi qui coordonnais forcément les gens en pré-prod, oui, enfin, avant le tournage. Mais sur le tournage en lui-même, c'était mon assistante réale, Pauline, qui a vraiment très très bien géré, avec Angelo aussi, qui
Ok.
l'a remplacé sur certains jours. Et donc c'est eux vraiment qui faisaient le chef d'orchestre en disant toi tu fais ci, toi tu fais ça, on va manger maintenant, qui faisait en sorte que le planning soit respecté.
Alors après ce dernier week-end de tournage, vous allez passer en phase de post-prod, enfin
Ouais,
post-production.
c'est
À
ça.
quoi ça correspond cette période concrètement en fait?
Alors sur beaucoup, beaucoup de projets, c'est une période qui dure, qui dure, qui dure. Mais moi j'ai vraiment envie que cette période soit très, très découpée et très, très organisée. Parce que c'est un projet déjà 2 ans, j'ai pas envie de le faire durer 3-4 ans. Donc la post-production, ça consiste à déjà faire le montage image, faire le montage son, le mixage des pistes son pour avoir un bon son. Et puis il y a aussi la composition musicale. Alors sur le projet, on a une spécificité, c'est que on a une partie animation par-dessus les images de prise de vue réelle. Ce qui fait qu'on a une équipe de VFX et d'animation 3D. Et donc ça va être un peu compliqué, mais on se
Ah oui,
lance.
il va y avoir de l'animation 3D.
C'est ça,
Waouh.
3D, 2D, enfin on sait pas trop, enfin on a une petite idée, mais ce sera un mélange des deux, je pense.
Parce qu'il y a des dinosaures dans le film?
Non, 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 il n'y a pas de dinosaure, mais un peu à la Heartstopper si des personnes connaissent la série.
Comment t'as dit?
Heartstopper, c'est une série Netflix qui est sortie il n'y a pas longtemps, c'est basé sur une BD d'Alice. Oh, je vais pas me tromper sur son nom. Bon, elle s'appelle Alice. Et voilà, c'est une Britannique et elle a fait une série qui est vraiment très très mignonne sur un amour platonique entre deux jeunes adolescents adultes. Voilà. Et donc bah, la post-production, c'est un très long processus jusqu'au dernier moment. Il faut réussir à rentrer dans certains délais parce que là, on a déjà une première projection qu'on a en tête. Bon, je sais pas si je peux révéler la date aujourd'hui là, mais c'est déjà prévu.
Alors, on en parlera peut-être à la fin de
D'accord.
l'interview, si tu veux le révéler. Moi, il y a quand même une question, une petite curiosité personnelle qui me taraude, parce que
Oui.
rapport à la post-production, parce que souvent, quand on voit des films sur des réalisateurs qui réalisent des films, enfin quand on voit des mises en scène de films, etc., on voit le réalisateur qui donne des indications à l'oral aux acteurs pendant qu'ils sont en train de jouer.
Oui.
Et du coup, je me demande, mais comment ça se fait que ces indications du réalisateur qu'on entend, ça se retrouve pas dans le film?
Ces indications, c'est-à-dire, tu parles
Ben,
de la
c'est-à-dire que
direction d'acteur?
pendant que l'acteur joue la scène,
Ouais.
le réalisateur lui donne des indications à l'oral, quoi.
Ah, alors je l'ai fait aussi, mais ça c'est enfin, en tout cas de ce que je pense, dont tu me parles, c'est quand, par exemple, tu as une scène où tu sais que tu vas rajouter de la musique, t'as pas besoin de la prise de son
Ah,
direct,
d'accord, ok.
et donc le réalisateur à ce moment-là peut se permettre de dire des choses, de faire rire les actrices ou de les faire pleurer, comme il veut.
Ok. Ça marche. Alors, de quoi est-ce que tu aurais besoin maintenant pour pouvoir continuer à faire avancer le projet? J'ai cru comprendre que tu avais besoin de nouveaux partenaires.
Oui, j'ai besoin d'argent. Non, non, honnêtement, oui, j'en ai besoin. Oui, du coup, des partenaires pour rendre le projet un peu plus crédible, même s'il l'est déjà, il l'est déjà beaucoup. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on a besoin de vrais partenaires concrets qui nous aident à organiser l'objectif du film aussi, qui est de créer des séances ciné-échanges, ciné-débats, dans plusieurs villes françaises, dans des cinémas un peu indépendants, en tout cas les salles qui accepteront de nous accueillir, pour échanger autour de la santé des femmes, et plus précisément l'endométriose, qui est très... méconnu, même si on connaît le mot endométriose, on connaît vraiment pas toutes les spécificités. Et honnêtement, je vais pas en parler pendant des heures ici, mais c'est une maladie qui est très 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 invasive et qui est très très douloureuse.
Et alors, du coup, est-ce que tu as un horizon d'attente pour la projection du film en termes de date?
Pour la projection du film,
ouais.
Ah, c'est septembre.
Ah, c'est septembre.
C'est septembre.
Okay.
Je jette juste septembre. Je dirais okay. pas la date. Je sais pas si la ville du Mans m'autorise à...
Mais du coup, tu pars dans l'optique que la post-production va pas durer 2 ans, quoi.
Non. Du coup, ça va être très, très organisé. On a déjà toute notre équipe. J'ai une directrice de post-production, contrairement au tournage, j'avais pas de directeur de prod. Mais, pardon. Et du coup, je pense que ça va vraiment le faire.
Et d'ailleurs, pour cette post-production, est-ce que tu cherches des nouvelles personnes, des nouveaux professionnels?
Peut-être des personnes qui seraient intéressées pour donner un avis. Peut-être une projection test pour voir comment les gens réagissent, qu'est-ce qu'ils en pensent, s'il y a des derniers détails à améliorer.
Mais niveau monteur et tout ça, t'as ce qu'il faut, quoi.
Oui, j'ai toute mon équipe. Ça, c'est l'avantage parce que avant le tournage, j'avais pas à 100% l'équipe. Mais là, c'est bon. Pour la post-production, moi, on est un peu tranquille.
Et alors, dans quelle salle est-ce que tu penses pouvoir le faire projeter?
Alors, chose de sûre, les cinéastes, enfin, le cinéma, les cinéastes au Mans, on a pas mal de pistes, celles que je peux révéler, je pense. On a la Citadelle des Anges, là on a tourné. Il faut savoir qu'eux, ils ont accueilli la première édition du festival Festicourt juste avant notre tournage, en fait, la semaine dernière. Okay. Et donc, ça pourrait être intéressant de projeter le court-métrage lors de ce festival, à voir comment ça se passe. Mais voilà, ils sont à la recherche de courts-métrages et de films à projeter au sein de leur lieu, qui est très sympathique. On peut espérer aussi d'autres salles un peu indépendantes ou des salles qui, comme je l'ai dit, qui veulent nous accueillir un peu partout en France. Ça va être des négociations avec les gérants des salles et surtout voir si on a des partenaires dans les différentes villes.
Alors, tu as parlé du festival de court-métrage de la Citadelle des Anges. Est-ce que tu as d'autres festivals en tête?
Non, c'est pas le festival. Pardon, j'ai la voix enrouée.
Y a pas de soucis,
c'est un mauvais moment. C'est pas le festival de la Citadelle des Anges, mais c'est des personnes qui travaillent ensemble. Voilà.
D'accord.
C'est un festival qui veut se développer, qui est géré par Marie. Je connais que le prénom, c'est pareil. Je saurais pas dire le nom.
Alice, voilà. C'est Marie, donc.
C'est ça.
Et oui, est-ce qu'il y a quand même d'autres festivals du coup que tu as en tête?
Alors, bien sûr, j'aimerais beaucoup le festival Le Cabourg, mais c'est pas sûr qu'au niveau des dates, ça rentre. Parce qu'en général, ils acceptent les films qui ont été produits. Juin avant l'année de l'édition du festival.
Okay.
Donc à voir. Il y a le festival Le Cabourg. Il y a plein de festivals. Enfin, je pense, je vais essayer de viser le plus possible et on verra où on va. On va essayer de partir à droite à gauche.
Et alors, est-ce que tu comptes te lancer dans un nouveau projet aussitôt fini La Chaleur des Iris?
Oui.
Okay.
Alors moi, je suis très très attiré par les clips musicaux et donc j'ai peut-être potentiellement un projet déjà pas en cours mais en cours de réflexion, et puis je pense très très vite je vais avoir envie de réécrire une histoire, pas forcément la tourner directement mais en tout cas l'écrire et essayer de développer le projet encore, de le développer le plus possible.
Oui, ça peut être intéressant aussi. C'est le projet musical, puis peut-être ça demande aussi moins de budget éventuellement.
Ça dépend. Là on est à 3000 euros de budget pour le film, voire plus.
Ouais.
ce qui est pas mal pour un... Enfin, ce qui n'est pas énorme pour un court-métrage, mais ce qui est pas mal pour un court-métrage qui est autoproduit avec juste un petit financement de la ville du Mans. Enfin, si, ça dépend pour qui, mais voilà.
Et alors, j'ai une dernière question. Est-ce que tu penses que La Chaleur des Iris pourrait, à l'avenir, devenir un long-métrage? Comme c'est le cas de certains courts-métrages,
il faudrait le réécrire.
Qui le reprennent.
Il faudrait le réécrire. Honnêtement, le scénario, c'est pas le plus original, mais est-ce que j'ai créé un univers autour du scénario? Je pense que c'est ça qui peut être intéressant dans le film. Et donc, il faudrait élargir cet univers et recréer une sorte de scénario qui soit beaucoup plus adapté au long métrage. Mais en tout cas, moi, j'ai surtout envie de partir sur d'autres projets. Parce que là, c'est une idée qui dure depuis 2 ans.
Oui, t'as besoin d'autre chose, quoi.
J'ai envie de vivre de nouveau l'histoire d'autres personnages, parce que j'ai l'impression que quand t'écris un scénario comme ça, enfin, c'est personnel, mais j'ai vraiment l'impression d'être rentré dans l'histoire de Samantha et Charlotte. Mmh. Et donc, j'ai envie de passer à une autre histoire, tourner la page.
Eh bien, merci beaucoup, Lucas Morisseau, pour être revenu nous tenir au courant de l'avancée de ton court-métrage, La Chaleur des Iris.
Et à bientôt.
Et à bientôt, effectivement. On se retrouve dans quelques instants. Vous pouvez gagner des places pour Sheldon et Neita le 12 avril à Jean Carmet en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute Glenn Frey, Part of Me, Part of You, en espérant que ça se lance. Retour dans l'amphi directement pour les chroniques étudiantes. Et on va écouter en premier lieu la chronique de Maëlle. Ça veut bien se lancer encore.
Salut Maëlle.
Salut.
De quoi tu nous parles aujourd'hui ? Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'espoir de l'escrime pour la France aux Jeux Olympiques de cet été, la sabreuse Manon Brunet.
C'est parti.
Alors tout d'abord, en quoi consiste l'escrime ? Donc pour faire simple, l'escrime est un sport où le but est de toucher l'adversaire avec son arme sans se faire toucher. Manon Brunet est née en 1996 à Lyon, elle a donc 28 ans. C'est une escrimeuse française dont la spécialité est le sabre. À l'âge de 8 ans, elle découvre l'escrime. Dès ses premières années, elle remporte de nombreuses compétitions de niveau régional et national. Du fait de ses nombreuses victoires, elle rejoint à 14 ans le cercle d'escrime orléanais, ce qui lui permet quelques mois plus tard d'entrer en équipe de France junior. En 2013, à 17 ans, elle intègre l'INSEP pour progresser en compagnie d'autres athlètes français de son niveau. À l'occasion des championnats du monde d'escrime junior en 2015, Manon Brunet devient pour la première fois vice-championne du monde en catégorie junior. Elle fera de même l'année suivante en remportant la médaille d'argent aux championnats du monde d'escrime junior 2016. 2016 représente également la première année olympique pour la Française, puisqu'elle participe aux Jeux olympiques de Rio durant l'été 2016. Malheureusement, elle ne parvient pas à décrocher une médaille malgré une belle quatrième place pour ses débuts, puisqu'elle perd en demi-finale contre la Russe Sofia Velikiya, la numéro 1 mondiale durant ce tournoi. Suite à de très bons résultats en 2017, elle se classe au 4e rang mondial en 2018. En 2018, elle obtient son premier titre mondial en équipe de France, avec l'équipe de France lors des championnats du monde en Chine. Continuant sur cette lancée, elle se positionne par la suite en 3e place du classement pendant 2 saisons consécutives, ce qui assure une qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Durant ces JO, elle obtient sa première médaille olympique avec une 3e place en individuel, puis elle décroche la médaille d'argent avec le sabre féminin par équipe, où les Françaises perdent 45-41 face aux Russes. Le début de l'année 2022 est compliqué et Manon a du mal à obtenir des résultats. Malgré ces résultats compliqués, l'absence de ses rivales russes au classement mondial exclue suite à la guerre en Ukraine propulse Manon à la première place mondiale du classement. En 2023, Manon Brunet devient championne d'Europe en battant en finale sa compatriote Sarah Balzer 15-10. Puis remporte également la médaille d'or en sabre par équipe aux Jeux européens 2023 en Pologne. Manon participera cet été aux Jeux olympiques en équipe et sûrement en individuel, mais elle n'a pas encore décroché son billet pour Paris. J'espère qu'elle performera et que les filles décrocheront l'or à la maison.
Merci beaucoup Maëlle pour ta chronique. Et on parle à présent cuisine avec Merlin. Salut Merlin.
Salut.
Alors de quoi tu nous parles aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui je vais faire une chronique un peu spéciale car je ne vais pas parler d'un plat mais bien de 5 plats différents.
Waouh.
Et oui, je vais faire un petit tour du monde des plats nationaux. On va voir le Mexique, l'Angleterre, l'Algérie, l'Écosse et la France.
C'est parti.
Allez, donc on commence tout de suite avec le plat national mexicain. Si certains diront que ce sont les tacos, et pas les French tacos, les tacos mexicains, les vrais, ou les enchiladas, eh bien désolé de vous dire ça, mais vous avez tort. Eh oui, le plat national du Mexique, est la mole, à ne pas confondre avec l'unité de mesure servant à savoir la quantité d'atomes d'un contenant, ou avec une sorte de taupe appelée mole, ou encore avec la mole qui est un poisson lune. Ou encore avec un mur à l'entrée des ports pour se protéger des vagues. Bref, assez parlé chimie, animaux et architecture, la mole est une sauce plus qu'un plat. Cette sauce daterait de l'époque préhispanique, elle était considérée comme une offrande aux dieux comme Moctezuma. C'est une sauce à base de cacao, de piment, de sésame, de cacahuètes, de tomates, de maïs et de tortillas frites et émiettées. Mais ça c'est juste la base, après le nombre d'ingrédients peut varier en fonction des régions. Certaines recettes contiennent plus d'une centaine d'ingrédients et peuvent nécessiter plus de 12 heures de préparation. Donc ne soyez pas déçus si je ne vous livre pas la recette. La mole est souvent servie en accompagnement de tacos ou de tamales. Passons à la suite si vous le voulez bien, même si vous ne le voulez pas je vais quand même passer à la suite. Qui est le plat national anglais et je vais en surprendre plus d'un. Et oui, encore, le plat national anglais est le poulet tikka masala. Et c'est pas moi qui le dis, mais bien Robin Cook, un ancien ministre des Affaires étrangères et député du Parti travailliste. Le tikka masala est donc un plat anglais composé de poulet cuisiné en sauce avec de multiples épices, qui n'inclut pas le curry. Alors le plat serait donc né au Royaume-Uni dans les années 60. La création de ce plat reviendrait à un chef de restaurant à qui on aurait demandé de faire un poulet au beurre, un plat indien mais plus gravy, qui veut dire juteux. Le cuisinier aurait donc improvisé une sauce pour son plat avec des tomates, du yaourt, du lait de coco et un mélange d'épices, le masala. Et le poulet tikka masala était né. Passons désormais au plat national algérien qui n'est autre que le couscous. Le couscous est donc un plat composé de grains de semoule, de légumes comme des courgettes, des carottes ou des pommes de terre, de viande, du bœuf et du mouton plus communément, cuit avec des épices. En Algérie, il y a 1000 façons de le préparer, mais il peut y avoir différentes manières par région ou par village. Ce serait un plat qui, selon la légende, aurait été inventé par les djinns, des sortes de démons, pour mettre fin aux insomnies du roi qui avait l'habitude de se coucher trop tard. Donc ce plat daterait d'avant le 7e siècle. Les premières traces de ce plat en France dateraient du 16e siècle, donc presque 1000 ans plus tard, avec l'écriture par Rabelais de Pantagruel. La recette du couscous est assez difficile à dire, car comme je vous l'ai dit plus tôt, il y a 1000 façons, rien qu'en Algérie, de le préparer. Alors, imaginez si je parlais du couscous marocain ou tunisien. Par exemple, en Tunisie, le couscous est au poisson. Bien, maintenant remontons un peu dans le nord pour vous parler du hagi, le plat national écossais. Ce nom vous dit peut-être rien, mais est-ce que le nom de panse de brebis farci vous donne un plat en tête? De mon côté, ce nom me donne surtout envie de vomir. Bref, le hagi, je préfère, est un plat composé d'abats de mouton, cœur, foie et poumons, avec de l'oignon, des flocons d'avoine, du suif, qui est de la graisse animale, du poivre et du sel. Le mélange est traditionnellement bouilli dans la panse, qui est une partie de l'estomac d'un mouton, pendant plusieurs heures. Et cette abomination, plat, est super vieux. On en retrouve des traces dans l'Odyssée d'Homère, qui est un récit de l'Antiquité grecque. Et pour la petite anecdote, sachez qu'il existe un animal légendaire, très mignon, du nom de hagi sauvage. Bref, passons à quelque chose d'un peu plus appétissant avec le dernier plat de cette chronique, le plat national français. Car oui, nous en avons un, et c'est la poule au pot. Alors si vous ne savez pas depuis quand nous avons un plat national, eh bien c'est Henri IV qui l'a désigné comme tel. En effet, il désirait avoir un plat accessible à tous, et il disait « Je veux que chaque laboureur de mon royaume puisse mettre la poule au pot le dimanche ». La poule au pot est une recette composée d'une poule cuite dans un bouillon, avec des légumes comme des carottes, des navets, des poireaux, des oignons ou encore quelques clous de girofle. Henri IV voulait rapporter de la cohésion dans le royaume car cela faisait plusieurs décennies qu'il y avait des guerres de religion entre catholiques et protestants dans tout le pays. Mais apparemment ça n'a pas marché car quelques années plus tard, un peu avant la Révolution, la Révolution française, les sans-culottes chantaient « Enfin la poule au pot va être mise, on peut du moins le présumer car depuis 200 ans, qu'elle nous est promise, on a cessé de la plumer. » Et c'est sur ces belles paroles que je vais vous laisser. J'espère vous avoir donné faim et à la semaine prochaine.
Eh bien, merci beaucoup Merlin pour nous avoir fait découvrir tous ces plats et tous ces synonymes de molle. C'est très ambitieux de la part de Henri IV de vouloir régler les conflits de religion avec la poule au pot.
Oui,
mais bravo à lui pour son ambition.
Essayer, hein.
Voilà, fallait essayer. Alors, on va faire une petite pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour les cinéastes en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute Brigitte Fontaine, Rififi.
L'empire de la nuit, plus noir que la série, attire les ennuis, fait qu'affrififi, les nightclubs, les tripots, aux vapeurs vénéneuses, de mal plus beau qu'une paire de valseuses. Les âmes ont leur souris moulées de vif argent aux lèvres de rubis, aux regards de serpent allumant les gogos qui crachent
le grisby. La queen de la coco, c'est la môme vert de gris. L'empire de la nuit, plus noir que la Syrie, attire les ennuis. Fais gaffe, rififi. Mais les femmes s'en balancent quand sortent les pétards. Elles éteignent leur transe. Olé de nénuphars, les gonzes s'entretuent à coups de silencieux. Et les poules agacent à shooter ces messieurs. L'aube grise et mauve frôle les Maccabées, les survivants se sauvent. Où sont les orchidées? L'empire de la nuit, plus noir que la Syrie, les ennuis. Fais gaffe aux rififi. N'avait pas la mort. Lâche une rose verte. Et c'est encore l'aurore, l'empire de la nuit, plus noir que la Syrie, attire les ennuis. Fais gaffe, rififi. L'empire de la nuit, plus noir que la Syrie, attire les ennuis. Fais gaffe.
Retour dans l'amphi pour la suite des chroniques étudiantes et on est cette fois-ci avec Clémentine. Salut Clem.
Salut Charlie.
Eh bien je t'en prie sans plus attendre, tu peux commencer.
Eh bien écoute, la dernière fois on s'est retrouvés pour parler de la Slovénie et ce soir on va partir voyager au Monténégro. Le Monténégro est un pays balkan bordé par la mer Adriatique qui se situe aux frontières de la Croatie, de l'Albanie et du Kosovo. Ce pays est accueillant, chaleureux et mélange de nombreux paysages. Vous pourrez y voir des montagnes, des forêts, la mer, des lacs, etc. Durant notre voyage, notre première escale au sein de ce pays a été de s'arrêter à Kotor. C'est une petite ville fortifiée située près des falaises du mont Lovsen. en vous baladant dans les ruelles sinueuses de la vieille ville médiévale, vous pourrez y contempler des églises romanes, prendre un café en terrasse sous la chaleur agréable de l'automne. Mais encore mieux, Kotor, entouré de montagnes et de la mer Adriatique, vous permettra de prendre le large et de visiter deux petites îles magnifiques mais très touristiques. Alors un conseil, évitez la saison estivale. Aussi, lorsque vous sortez de cette vieille ville fortifiée, vous pourrez vous arrêter au marché qui borde les remparts de la ville. Vous y trouverez des fruits et légumes de saison. Et surtout de bons kakis. Alors quoi de mieux qu'une bonne dose de vitamines pour continuer votre journée et partir gravir la colline de la forteresse Saint-Jean. 1350 marches pour découvrir l'incroyable panorama sur la baie de Boca. Je vous assure que ça vaut le détour. Si je me souviens bien, c'était 5 euros pour faire la randonnée. Certes, c'est payant. Mais ces 5 euros ne valent rien à côté des images qui seront gravées à tout jamais dans votre mémoire. En plus, rien ne vous interdit de faire des pauses pendant la montée. Des coins sont même prévus pour vous reposer, vous asseoir, boire un peu d'eau, manger et repartir de plus belle. Puis, tout le long du voyage, vous y verrez des petits chats qui font la sieste ou qui vous demandent des câlins. Vous n'avez donc aucune justification valable pour éviter cette randonnée qui est à couper le souffle. D'ailleurs, vous pouvez même visiter le musée des chats. C'est pour vous dire à quel point c'est leur pays. Après être descendu, vous n'aurez qu'à vous mettre en maillot de bain et plonger dans la mer pour vous rafraîchir tout en contemplant le coucher de soleil à travers les montagnes. Après cette visite de Kotor, nous avons repris la route et la deuxième escale se trouvait au monastère d'Ostrog. C'est un incontournable à ne pas manquer. Le monastère d'Ostrog, c'est un monastère de l'église orthodoxe qui a été construit dans une falaise. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, c'est surprenant et magnifique à voir. On se demande, mais comment c'est possible d'avoir construit un si beau monument dans de la roche? Comment ont-ils fait pour que ça tienne? Enfin bref, tout ça pour dire que vous devez passer par ce lieu et en faire la visite. C'est ouvert au public. Mais encore une fois, c'est un endroit très touristique, donc évitez l'été si jamais c'est possible. Mais attention, ça reste un lieu de culte, alors si vous vous y rendez, même si c'est seulement pour contempler l'architecture, respectez les consignes. Vous ne pourrez pas prendre de photos et devrez respecter le silence du lieu. Mais sur ça, je n'ai aucun doute. Je vous fais confiance, alors foncez. Nous sommes restés une seule nuit là-bas, car il faisait froid et que nous voulions nous écarter de la ville pendant quelques jours. Nous avons alors pris la route en direction des montagnes. En regardant sur une application où on pouvait dormir, car oui, le camping sauvage n'est pas autorisé au Monténégro, nous avons trouvé le lieu idéal. C'était au sommet d'une montagne, à côté d'une petite ferme, que nous avons décidé de nous rendre. Bon, on ne va pas se mentir, déjà au Monténégro, il n'y a plus de route goudronnée, ou très peu. Mais alors vous imaginez à quoi pouvait ressembler le chemin pour se rendre en haut, en camion. Le chemin était très étroit et parsemé de cailloux. On espérait ne pas croiser une voiture sur notre voie, car cela aurait été très compliqué. Une fois arrivés, nous avons rencontré un homme adorable, d'une soixantaine d'années, qui avait arrêté sa carrière de policier du jour au lendemain pour monter sa propre ferme en haut d'une colline, élever des animaux et vivre en autonomie. Il est tout de suite venu à notre rencontre avec un très grand sourire et en étant très curieux d'échanger avec nous pour partager sur nos cultures. Il nous a alors proposé de nous faire une visite guidée des anciens locaux militaires qui se trouvaient juste à côté, eux aussi, au sommet de la montagne. Il parlait couramment anglais et nous a confié que ça lui faisait énormément plaisir que des Français acceptent d'échanger avec lui, car c'était l'une des premières fois. On lui a donc demandé pourquoi, et il nous a confié qu'il avait eu l'impression que nous, en tant que Français, nous étions très sur nos gardes, très craintifs. Il nous a aussi dit qu'il avait essayé d'échanger en anglais avec eux, mais qu'il n'avait souvent pas de réponse. On lui a alors dit qu'on était surtout des grandes quiches en anglais. Il a plutôt rigolé, à vrai dire. Cet homme était incroyable et si rassurant. Il nous a amenés dans des anciens blocos. Il faisait si sombre et il voyait qu'on était un peu craintif car on ne le connaissait à peine. En le remarquant, il nous a tout de suite donné des lampes torches et est passé devant pour nous montrer qu'il n'y avait aucun souci. Il était toujours accompagné de son chien. Au retour, sur le chemin, nous avons échangé avec lui, à propos des raisons qui l'ont poussé à tout arrêter du jour au lendemain. Il nous a alors dit, et je le cite, « Ce ne sont pas les animaux qui sont cruels, mais les humains entre eux. J'ai souhaité m'éloigner, créer ma petite ferme et m'occuper de mes animaux qui, eux, me sont fidèles et me donnent tant d'amour. Cet homme était hyper touchant et il était d'un courage. Car oui, la nourriture coûte très cher au Monténégro pour les animaux, et le lieu pour acheter de quoi les nourrir se trouvait à l'autre bout du pays. Alors une fois par mois, il s'en allait quelques jours pour partir à cet autre bout et acheter cette nourriture pour ses animaux. C'était dur, financièrement parlant. Mais il nous a dit qu'il n'avait jamais été aussi heureux qu'ici, au sommet de cette montagne, entouré de ses animaux en liberté qui venaient nous rendre visite. Des chats, des chiens, des poules, des cochons, des biquettes, des vaches, etc. Un bon feeling passait, et il nous a alors fait signe de le suivre, et il nous accorda sa confiance pour aller voir les petits porcelets qui venaient de naître. on lui a acheté des produits locaux avant de partir. Je crois que cette expérience fut l'une des plus marquantes de ce voyage. Tant de gentillesse, de bienveillance, de courage et de sagesse dans cet homme, nous avons pris une claque dans la tronche. Comme nous sommes partis très tôt le matin, on lui avait préparé un petit mot de remerciement, écrit en monténégrin, et on l'avait déposé à sa porte. Ce jour-là, quand nous avons repris la route, c'est un silence qui s'est installé dans le van. Un silence qui nous a conduit à nous interroger sur tout le confort que nous avons en France, sur toutes les aides que nous avons. Cet homme n'avait presque rien et pourtant, il nous a tellement donné et apporté. Ça a été d'autant plus marquant du fait que depuis notre arrivée au Monténégro, nous avons eu une forme de choc culturel. Les pays balkans, et surtout à partir du Monténégro, sont marqués par la pollution, la pauvreté, les animaux errants. Et dans tout ça, ce n'est même pas aux locaux à qui il faut en vouloir, mais à nous les Occidentaux qui envoyons nos déchets à l'étranger, dans des pays qui n'ont pas les ressources de mettre en place les installations nécessaires pour recycler et qui subissent donc ces événements. Ce pays a été un tournant dans notre périple en Europe de l'Est. C'est un recul sur soi-même indéfinissable qui s'est mis en place, c'est une remise en question totale de notre vision occidentale qui s'est installée. Mais surtout, je dirais que voir la réalité nous a changé pour toujours. On s'est promis une chose, on y retournera, mais cette fois pour s'engager dans une association d'aide à l'environnement. C'est aussi par ce voyage que j'ai su que je voulais reprendre mes études de droit, mais cette fois-ci en droit de l'environnement ou en droit des étrangers. Nous ne pouvons pas rester silencieux face aux difficultés des autres. Et c'est sur ces derniers propos que je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à la prochaine pour parler de l'Albanie.
Eh bien, merci beaucoup Clémentine, très étonnant ce personnage de vieux sage avec ses animaux dans la montagne. Et le musée des chats aussi, je retiens particulièrement cette information.
Mais il y en a partout dans le pays, enfin, c'est un peu dingue.
Formidable. On passe à la dernière chronique du jour avec Julie pour sa chronique Bien dans ses baskets. Salut Julie.
Salut.
Eh bien, on t'écoute sans plus attendre.
Allez, moi je suis contente d'être juste après Clémentine et de garder peut-être cette belle énergie, ce beau voyage et aussi ces jolies remises en question sur ce qui fait sens. Je vous propose un petit temps de relax minute, qu'on puisse peut-être remettre du souffle tout autant dans notre corps que dans notre esprit. Donc si vous êtes en toute sécurité, je le dis à chaque fois, mais si vous conduisez, restez concentré, vous ferez cette petite relax lors d'un replay. Et si vous êtes bien, tranquille à la maison, eh ben je vous invite à vous asseoir confortablement, ici aussi sur le plateau, si vous voulez en profiter. Voilà, de trouver une posture vraiment confortable, laissez vos yeux se fermer, en totale confiance, ma voix vous guide le temps de ces quelques minutes. Et puis, en même temps que les yeux se ferment, je vous invite à prendre de bonnes respirations, de bonnes expirations. Sentir peut-être que sur chaque expire, vous libérez les tensions, les fatigues, pour revenir dans du confort. Et surtout le confort du corps, donc n'hésitez pas à vous étirer si vous avez envie. Et puis on vient sentir le contact des pieds au sol. On peut sentir aussi le contact des fessiers sur la chaise, l'alignement du dos, de la tête. Voilà, tranquille. Et surtout, respirez bien, ne restez pas en apnée. Et tranquillement, on va laisser notre visage se relâcher quelque peu. Peut-être de détendre le front, les yeux, les tempes. Respirez bien en même temps, utilisez l'expire comme pour mieux relâcher, comme pour mieux libérer les tensions. Autorisez-vous à soupirer. Et puis on vient relâcher quelque peu les joues, les mâchoires. Peut-être de desserrer les dents comme pour mieux libérer. Les mâchoires. Et quelques instants, peut-être qu'on peut prendre conscience de la forme de notre visage quand il se relâche, en tout cas le temps de cette petite relax minute. Et bien assis, assise, là, dans ce moment, telle une pause, eh bien on va juste s'offrir un tout petit voyage imaginaire. Et je vais vous proposer quatre images qu'on va comme déposer comme des diapositives, à commencer par un chat qui dort sur le rebord de la fenêtre. Un ballon rouge qui s'envole dans les airs. Un ciel étoilé et sa voie lactée. Et le lever du soleil sur l'océan. Alors, parmi ces quatre images qui se sont présentées, peut-être qu'il y en a une qu'on aimerait bien garder là quelques instants, un peu comme une carte postale qui nous ferait voyager à travers elle. Un peu comme une Madeleine de Proust. Alors on installe cette image en nous et on y déploie, j'ai envie de dire, l'atmosphère, le décor. Un peu comme si on y était. On peut ouvrir aussi nos sens, éveiller. Et s'il y avait des parfums, des sensations, des textures, des couleurs. Et à l'inspiration, on va inspirer tous les bienfaits à l'évocation de cette image qui fait du bien. Et sur l'expiration, on laisse toutes ces sensations agréables s'installer en nous, comme si on pouvait s'en nourrir, s'en renforcer là quelques instants, vraiment comme si on y était. Peut-être encore une fois, j'inspire les bienfaits de l'évocation de cette image qui fait du bien. Et j'expire, je laisse s'installer en moi, un peu comme si je pouvais m'envelopper, peut-être de cette atmosphère, peut-être de ce que ça évoque de bon pour moi, dans cette petite pause détente. Et en même temps qu'on laisse les bienfaits de cette image s'installer en nous, on peut aussi prendre le temps d'accueillir nos sensations. C'est là vraiment l'impact de la sophrologie, si je puis dire. C'est vraiment d'aller à l'écoute de nos sensations en même temps qu'on vit l'expérience. Comment résonne cette image en moi? À quel endroit? Quelle sensation? Et tout ça sans aucun jugement, juste tel que ça se présente là, tel que ça se donne à vivre. Alors très tranquillement, si vous le souhaitez, on peut laisser venir un léger sourire intérieur pour se remercier de s'être offert ces quelques minutes comme une pause qui redonne du souffle. On va ranger cette jolie image dans un coin de notre cœur, dans l'idée qu'on pourra la réutiliser quand on en aura le plus besoin. Et tout délicatement, on va revenir sur le chemin de cette soirée, de cette émission. On peut reprendre de bonnes respirations, de bonnes expirations. On peut aussi remettre de la conscience dans notre corps, hyper important en sophro. Je viens sentir mes pieds au sol, je sens à nouveau mes fessiers, mon dos, ma tête. Et puis on va s'étirer comme un arc, jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des doigts. Et on ramène finalement les bienfaits de cette image ou de cette petite pause pour que ça colore peut-être le reste de cette soirée. Bienvenue.
Merci Julie pour ta chronique qui était très attendue par Lucas Morisseau, qui me l'a dit en début d'émission.
Avec plaisir.
Merci beaucoup. Et on va se quitter en musique avec Vanessa Paradis, Il y a.
Il y a là la peinture des oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les fissures fermées, les serrures, comment voler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là là là, si l'on prenait le temps, si l'on prenait le temps. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. On les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là les mystères, le silence ou la mer qui lutte contre le temps. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les murmures, un soupir, l'aventure, comment mêler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde. regarde-t-elle qu'elle pourrait être en se disant pourquoi pas. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas.
Merci d'avoir suivi l'Amphi. On se retrouve vendredi 12 avril pour la partie 2 de ma sonographie sur la chanson française que je vous avais annoncé déjà pour le vendredi 5. Mais promis, cette fois, c'est la bonne. À bientôt dans l'Amphi. Merci à tous d'être venus.
Merci à toi.
Merci. Merci à toi.
C'était l'Amphi. L'émission étudiante.
Étudiante.